Chers camarades, chers amis, nous allons instaurer ce meeting de soutien aux 1400 candidats aux élections municipales de lutte ouvrière présente en Ile-de-France. Alors je vais vous donner un petit détail sur ces chiffres. Sur ces 1400 candidats, 1295 se présentent sur 37 listes lutte ouvrière. Les 105 autres sont candidats sur 27 listes d'union qui regroupent différentes formations de gauche. Ce qui fait au total 64 listes sur lesquelles figurent des militants de lutte ouvrière. Et je peux préciser que sur ces 27 listes d'union, 20 sont conduites par des militants du Parti communiste français, 6 par des militants du Parti socialiste et une par un camarade de lutte ouvrière, Alfort Bill. Alors, il était évidemment pas envisageable d'aligner sur cette tribune 1400 candidats, ni même un représentant de chacune des 64 listes sur lesquelles nous sommes présents. Mais je vais vous en présenter un échantillon représentatif, comme on dit dans les instituts de sondage, encore qu'il ne soit pas nécessaire de vous présenter la camarade qui est assise à ma droite, à ma gauche pour vous, notre porte-parole nationale, Arlette Laguiller. Dans ces élections municipales sur la liste lutte ouvrière des Lilas. Moi-même, Chantal Bocquil, j'ai été employée dans les assurances et je suis tête de liste lutte ouvrière dans le 10e arrondissement de Paris. Alors, je vais donc vous présenter la tribune. Alors, en partant de l'extrême gauche pour vous.
Merci.
Du temps, agent EDF-GDF, qui est sur la liste de lutte ouvrière dans le 11e arrondissement de Paris. Marina Podgorny, employée à la Caisse régionale d'assurance maladie du Dauphin. Employé d'assurance chez AXA. Thierry Gonneau, ouvrier à Bonofla. À son côté, sa deuxième de liste, Fatima Aïda, ouvrière à Bonofla. Olivier Augustin, tête de liste lutte ouvrière au Clé-sous-Bois. Puis Jean Camenin, électricien à la SNEDMA. LO Vert. Ensuite, Didier Baction, enseignant, conseiller municipal sortant des Ulis. Qui se représente dans cette ville sur une liste PCF, PS, LO. Ensuite, Monique Leborgne. était candidate à Vigneux sur une liste PCF-LO-LCR. Mireille Lambert, infirmière des hôpitaux, candidate à Vichy-la-Garenne. Sur une liste PS-PCF-Vert-MR-LO. Mohamed El Marbati, technicien à la stratégie. Et qui conduit de nouveau la liste Lutte ouvrière à cette commune. Philippe Julien, technicien à Citroën. Gisèle Pernin, Berger à Ivry-sur-Seine. Thelma Peignata, ouvrier à la SNCF, candidat sur une liste. Daniel Yubovny,
effectivement, ils revendiquaient 300 euros, donc on fait un peu petit bras avec 250. Ceci dit, c'est qu'à la revendication qui a été faite par les grévistes, donc on respecte en général dans les assemblées générales ce qu'ils décident. Donc voilà. Alors donc, vous savez sans doute qu'à la SNECMA, nous sommes en grève depuis le 18 février. Nous réclamons, comme vous l'avez entendu, une augmentation de 150 euros pour tous, mensuelle. Alors peu de gens sont au courant de notre mouvement, le problème des salaires, de la cherté de la vie font la une de l'actualité, mais que des travailleurs se battent pour être augmentés, ça n'intéresse pas les grands moyens d'information. Il n'y a que le ministre, que la ministre de l'économie et sa plaquette de beurre qui ont le droit aux radios, aux télés et aux grands titres de la presse. Alors la grève, elle a commencé à l'usine de Gennevilliers, puis elle s'est étendue à celle de Corbeil et a touché ensuite l'usine de Villaroche. Toute une agitation règne aussi à Snecma-Servite, située à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et aujourd'hui, je veux vous dire une bonne nouvelle, ça continue. À la Snecma, c'est une filiale de Safran. Donc la SNECMA est une filiale du groupe Safran qui fabrique des moteurs d'avion pour Airbus et Boeing. C'est l'un des principaux fabricants de moteurs d'avion du monde. À l'usine d'Agennevilliers, où je travaille comme outilleur, il y a 600 ouvriers en production et un millier dans les bureaux d'études et les méthodes. On y produit de nombreuses pièces essentielles pour les moteurs d'avion, les aubes, les carters et les pièces de forgeage. Corbeil est aussi une usine de fabrication et c'est à Villaroche qu'on fait le montage des moteurs. La grève a donc commencé le 18 février dans le secteur des forges de précision de l'usine de Gennevilliers. Les travailleurs de cet atelier avaient entendu dire que la direction avait lâché une augmentation de 100 à 150 euros, dont la revendication d'aujourd'hui, et à quelques ouvriers d'un petit secteur voisin. Alors pourquoi pas les autres? C'est comme ça que la grève a commencé et a fait tache d'huile dans les ateliers de production. Le mardi 19 février, les ouvriers de la fonderie se sont joints au mouvement. Le lendemain, c'est la mécanique qui s'y est mise aussi. En deux jours, toute la production de l'usine a été bloquée par 450 grévistes sur les 600 travailleurs qui comptent l'usine. Alors les raisons... de notre colère sont simples. C'est d'abord l'explosion du coût de la vie, alors que les salaires n'augmentent pas. Beaucoup d'ouvriers, des jeunes mais aussi des moins jeunes, n'arrivent pas à boucler les fins de mois. La flambée continuelle des prix sur les denrées alimentaires, les loyers, l'essence rognent le pouvoir d'achat. Et cela, ça n'est plus tolérable. Voilà pourquoi on en a ras-le-bol. Ce qui nous a indignés, ce sont aussi les dernières propositions salariales de la direction, entre 1,8 et 2% d'augmentation selon la qualification. C'est-à-dire une misère. Cela fait 26 euros à tout casser pour un ouvrier qualifié en début de carrière. Mais pas de quoi faire un tiers de plein dans une voiture. Alors beaucoup de travailleurs ont comparé ces miettes aux 150 000 euros de dividendes qu'empochera en mai prochain l'ancien numéro 2 du groupe Safran, le sieur Kolayakoubo. Alors ce qui nous a choqués, ce sont les bénéfices colossaux du groupe Safran. 157 millions d'euros en 2006 et 406 millions d'euros en 2007. Et cela va continuer. Les carnets de commandes sont pleins. Près de 1400 moteurs livrés en 2007. Et là, la direction est prévoit pour 2008, 2074 moteurs à produire. Comme vous le voyez, on travaille plus pour des salaires qui restent à la traîne. Vu les bénéfices qu'ont empochés les actionnaires, la SNECMA a largement de quoi payer et satisfaire nos revendications qui sont loin d'être un luxe. Le seul surplus des bénéfices réalisés en 2007 par rapport à 2006 suffirait à lui seul à augmenter les salaires des salariés de la SNECMA de 450 euros brut par mois. Alors, 150 euros mensuels d'augmentation uniforme, ce n'est vraiment pas la mer à boire. La direction, elle peut et elle doit céder. Alors très vite, les grévistes ont compris que pour avoir une chance de gagner, il fallait tout faire pour ne pas rester isolé et pour étendre le mouvement dans tous les ateliers de production de l'usine d'abord et ensuite dans les autres usines du groupe. Cette idée était dans la tête de beaucoup. Les plus anciens avaient en mémoire la grève de 1488, où nous avions pris le surnom d'ouvre-boîte, parce qu'on est rentré à peu près avec tout ce qu'il y avait dans la région parisienne. Donc bon, on a visité beaucoup, hein, c'est instructif. Déjà pour les salaires, les uns et les autres, travailleurs de Gennevilliers, de Corbeil, de Villaroche et d'autres usines encore, nous étions rencontrés, avions mené de nombreuses actions communes. Alors bien sûr, 1988, c'est loin, c'était il y a 20 ans. Depuis, le personnel s'est fortement renouvelé, mais les sillons tracés par le passé restent longtemps dans la mémoire collective, et surtout si les travailleurs sont là pour rappeler ces expériences, et c'est le cas à SNECMA Gennevilliers et ailleurs. Ouais. Régulièrement à notre directeur, on va sous sa fenêtre et souhaiter bon anniversaire. Alors voilà pourquoi, tout naturellement, les grévistes ont été convaincus de la nécessité d'aller dans les autres centres. La première visite s'est faite à l'usine d'Hispano, qui est juste à côté, on n'a même pas besoin de prendre de car. La première visite, et qui se trouve tout près de la SNECMA Gennevilliers donc. Et comme cette rencontre a été un succès, c'est à 250 que nous sommes rendus à l'usine de Corbeil, c'était le vendredi 22 février. Là, après que nous soyons regroupés devant le grillage de l'usine, celui-ci s'est miraculeusement ouvert devant nous, miracle. Et ensemble, les grévistes des deux usines SNECMA, nous avons pu faire le tour des ateliers.
On a appelé Moïse.
La maîtrise au grand complet, serrée en rondognon, l'huissier à ses côtés avait même tenté de reconnaître les grévistes trop bruyants et remuant à son goût. Pourquoi arrêter en si bon chemin? Après la visite de Corbeil, les grévistes sont allés mettre un peu d'animation dans les bureaux froids de la direction SNECMA, située à Courcouronnes, non loin de là. Arrivés sur place, la plus grande partie des grévistes ont investi les étages et les bureaux du siège, affolé les blêmes, le directeur de la SNECMA, le PDG de la SNECMA plus exactement, Petit Colin, Il s'appelle, c'est son nom. Pourquoi C'est pas pour sur des noms d'oiseaux, c'est sur des noms de poissons. Et je ne vous le dirai pas, parce que j'ai trop de respect pour cette sorte de poisson, mais c'est avec ça qu'on fait de la brandade. C'est une piste, pour réfléchir. Donc, après être rentré, là aussi, ça s'est ouvert miraculeusement. Donc, petit Colin finit par recevoir une délégation et promis des négociations pour mercredi 27 février. Alors je vais quand même vous raconter, puisque je faisais partie de la délégation, une anecdote. C'est, j'avais jusqu'à présent jamais vu un patron trembler et être aussi pâle. Et là je peux vous dire que ça fait plaisir et ça fait du bien quand vous voyez que vous arrivez à faire la trouille à ces gens-là qui à longueur d'année nous disent que nos salaires sont suffisants. Et là quand ils ont vu des grévistes en colère, et ben je peux vous dire que là ils avaient la trouille et une trouille monstre. Bon, c'est que le petit Colin, il n'a pas aimé tellement cette manifestation. Mais les bananiers qu'il y avait dans le siège social non plus. Et c'est là d'ailleurs que j'ai appris, parce que pour ma culture générale, je ne le savais pas, il y a des sortes de bananiers qui poussent en long. Je croyais que ça poussait debout, et en fait, ça pousse en long sur la moquette. Et hors de peau. Donc, j'ai appris ça, je ne savais pas. Donc, comme vous l'aurez compris, tout le monde est ressorti à gonfler à bloc. Et aujourd'hui, l'un des slogans les plus populaires parmi les grévistes, c'est Petit Colin des Talbins.
Petit Colin des
Talbins,
Petit Colin des Talbins, Petit Colin des Talbins.
Alors, des Talbins, comme chacun sait ou ne le sait pas, ce sont des billets, de l'oseille, de l'argent, de la thune. Ça s'appelle aussi des Talbins en argot. Donc, et puis en fait, il fallait que ça rime aussi avec Petit Colin. Mais l'imagination des grévistes. En général, ça marche mieux que la note souvent. Donc, d'autres disent tout simplement « on veut du pognon ». Et plus exactement, « on veut notre pognon ». Ce qui revient au même. Alors à Gennevilliers, mardi 26, Arlette est venue apporter son soutien aux grévistes. L'accueil a été particulièrement chaleureux. Il y avait 150 personnes venues l'accueillir. Et je pense qu'elle a un bon souvenir. Le même jour, la grève a monté en puissance à l'usine de Corbeil, si bien que le mercredi, tout le monde est tombé d'accord pour que les grévistes des deux usines se retrouvent cette fois-ci à Villaroche. Sachant fort que les grévistes allaient d'une façon ou d'une autre entrer dans l'usine, la direction elle a préféré cette fois-là ouvrir les portes. Donc c'est ainsi, c'est un peu qu'on les gaffe, en moins quoi. Donc c'est ainsi que les grévistes de Gennevilliers, de Corbeil ont rejoint ceux de Villaroche qui venaient de cesser le travail. Le principal bâtiment de montage était désert. Plus d'un millier de grévistes ont défilé dans les ateliers, les bureaux. La manifestation s'est terminée dans les locaux d'Hispano qui sont sur le site de Villaroche. Durant les 2 heures que nous avons passées à Villaroche, chacun a pu sentir l'inquiétude de la direction. Surtout quand des jeunes ont mis leur capuche pour défiler. Un air de banlieue encore soufflé. Alors ce qui est caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de rendez-vous fixé pour tous ces jeunes-là, mais les jeunes de Corbeil, de Villaroche et de Gennevilliers s'en trouvent toujours ensemble. Ça, c'est si ça se fait comme ça, on leur dit pas, ils trouvent. Ça, ils s'ébrouillent. Donc, l'air de banlieue a encore soufflé sur l'usine, faisant trembler plus d'un haut cadre. Cette manifestation est un vrai succès, comme on n'en avait pas vu à la SNECMA depuis des années. Et en repartant, parmi les grévistes, ils étaient déterminés à continuer le mouvement pour faire céder la direction. Je voudrais maintenant parler de la situation qui règne dans un autre centre de la SNECMA, celui de SNECMA Service, qui passe non des SNECMA Moteurs, c'est SNECMA Service, mais ce sont des salariés, donc c'est ça ce qui nous intéresse. Donc à Saint-Quentin, la colère sur les salaires s'est exprimée lors de rassemblements devant le siège qu'on avait fait en commun Saint-Quentin et Gennevilliers, où là encore, on est rentré dans le siège. Donc, ce rassemblement, aujourd'hui, la direction plutôt accuse des militants les plus en vue de Saint-Quentin de dépradation et de violence physique. 8 travailleurs sont menacés de sanctions et certains risquent le licenciement. Ces sanctions sont une véritable provocation et nous ne les acceptons pas. Alors hier, comme on n'avait pas encore visité Saint-Quentin, donc nous sommes partis à plus de 3/4 de Gennevilliers pour nous rendre à Saint-Quentin en Yvelines. Nous avons apporté notre soutien aux travailleurs contre la menace de la direction et pour les 150 euros. Le slogan c'était pas de répression, nous voulons du pognon. Là encore, l'accueil était particulièrement chaleureux. La revendication des 150 euros est une nécessité. Sarkozy s'est vanté d'être le président du pouvoir d'achat, ce que regrette d'ailleurs notre directeur Petit Colin, qui a déclaré dans la délégation, qui a déclaré en substance, et là je le cite, « Avec Sarkozy, j'ai les boules. » Pour un PDG, ça la fout mal. « À force de parler pouvoir d'achat, il nous met la merde, et en plus, j'ai voté pour lui. » Chose à quoi on lui a répondu que qui sème des miettes, comme le slogan le dit, récolte la colère. Le fameux adage. Donc on a des et puis en ce qui le concerne, il a les amis qu'il mérite. Hein. Donc et nous avons le mouvement que nous construisons et de ce mouvement nous en sommes fiers. Et on espère qu'il donnera envie à d'autres salariés de se mettre en bagarre et réclamer des hausses de salaire et pourquoi pas 150 euros, on est prêt à franchiser.
Maintenant, je passe la parole à notre camarade Arlette Taguier. Eh bien, travailleuses, travailleurs, camarades et amis, des candidats à lutte ouvrière seront donc présents dans ces élections municipales sur 186 listes, dans 166 villes, donc, compte tenu, bien sûr, des listes de secteurs et d'arrondissements de Paris, Lyon et Marseille. Ces chiffres mesurent notre effort puisque nous présentons des candidats dans 58 villes de plus qu'en 2001. Mais il montre aussi bien sûr les limites de notre présence quand on songe au nombre total de villes, disons de villes de plus de 10 000 habitants. C'est dire que notre campagne électorale n'est pas une campagne nationale. Elle concerne les villes où nous avons des candidats, soit sur des listes unitaires avec d'autres partis de gauche, soit le plus souvent sur des listes lutte ouvrière. Car comme vous le savez, nous avons décidé de nous associer localement, partout où cela était possible, aux candidats du Parti communiste, du Parti socialiste et d'autres partis de gauche pour constituer des listes unitaires contre cette droite qui est au pouvoir depuis 6 ans. Bien sûr, les candidats qui participent à ces listes unitaires, là où elles se sont constituées, appartiennent à des partis qui ont leur propre politique. Bien des divergences nous séparent, y compris sur des questions essentielles. Et ces différences, elles continuent à s'exprimer librement. Mais après 6 ans de pouvoir de droite, avec l'écœurement que cela suscite dans les classes populaires et qui se focalise sur Sarkozy, les divergences ne doivent pas empêcher la solidarité contre cette droite au pouvoir. De telles listes unitaires n'étaient pas possibles, lors des élections municipales de 2001, où la gauche était au pouvoir et s'était comportée d'une façon telle qu'elle a perdu 4 millions de voix à la présidentielle qui a suivi. Nous n'avons pas été solidaires de cette gauche-là qui, au gouvernement, agissait comme la droite. Blocage des salaires, laisser faire les licenciements massifs dans les grandes entreprises, supprimer des emplois dans les services publics, privatiser à tout va. Il n'était pas possible pour des militants défendant les travailleurs de figurer sur des listes qui se réclamaient d'un gouvernement qui était en train de porter des coups aux travailleurs. La situation, elle est bien différente aujourd'hui, avec le pouvoir de droite qui mène une guerre ouverte contre le monde du travail. Nous participons donc à 69 listes unitaires. 40 sont sous la conduite d'une tête de liste du Parti communiste, 24 sous celle du Parti socialiste, auxquelles s'ajoutent 5 listes unitaires diverses. Et là où les listes unitaires n'ont pas pu se réaliser, vous le savez, nous avons présenté nos propres listes. Il y aura ainsi 117 listes présentées par Lutte ouvrière. Ces municipales sont les premières élections depuis la présidentielle qui a permis à Sarkozy d'accéder à son poste et après les législatives qui, dans la foulée, lui ont donné une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Lorsqu'il a accédé à l'Élysée, Sarkozy n'était certes pas un novice en politique. Cela faisait de longues années qu'il était associé au pouvoir. Sa carrière ministérielle, commencée tôt, a été interrompue quelque temps lorsqu'en 1995, il a trahi Chirac pour Balladur. Il a dû payer par quelques années de mise à l'écart ministériel, non pas la trahison qui se pratique beaucoup dans leur monde, mais le fait d'avoir misé sur le mauvais cheval. C'était une mise à l'écart toute relative. Cependant, il est resté maire de Neuilly et de ses citoyens cossus, et il a pu continuer à se faire de riches amis. À partir de 2002, Sarkozy n'a pratiquement jamais cessé d'être ministre, sous Chirac, dans les gouvernements de Raffarin et de Villepin, et même d'être un des piliers de ces gouvernements. Ministre de l'économie ou ministre de l'intérieur, il a réussi à se construire une image d'homme d'ordre, pourfendeur des travailleurs qui font trop souvent grève, des fonctionnaires qui ne travailleraient jamais assez, des chômeurs qui ne trouvent pas de travail parce qu'ils n'en chercheraient pas, et il est devenu l'homme du Karcher pour nettoyer les banlieues, l'homme des opérations policières musclées et surtout spectaculaires, et l'homme de la chasse aux immigrés. Grand ami des riches, il avait de quoi plaire dans les beaux quartiers. Ses mouvements de menton, sa démagogie sécuritaire lui ont ouvert le cœur de la frange réactionnaire et anti-ouvrière de la petite bourgeoisie. Et cela lui a réussi sur le plan électoral. Son grand succès a été de voler à Le Pen sa clientèle électorale, privant par la même occasion ce dernier de son gagne-pain, au sens pour ainsi dire littéral du terme. L'électorat d'extrême droite a été séduit par cet homme qui avait le langage de Le Pen, le bagou de Le Pen, mais qui avait en plus l'avantage de pouvoir lui accéder à la présidence de la République. C'est dire que les classes laborieuses n'avaient aucune raison de voir en cet homme autre chose qu'un ennemi. Et une fois au pouvoir, il n'a pas tardé à montrer à quel point il l'était. Oh, en réalité, il n'est pas très différent de ses prédécesseurs, de ce Raffarin, de ce Villepin qui ont su,
l'un avec une fine bonhomie, l'autre avec des poses d'aristocrate, portaient des coups contre le monde du travail. Et Sarkozy n'avait qu'à continuer la même politique, en version plus cynique et plus provocatrice. À Lutte ouvrière, nous n'avons jamais été de ceux qui ont présenté l'accession de Sarkozy au pouvoir comme une catastrophe politique, et nous n'avons pas appelé à la résistance, comme si avec l'installation de Sarkozy à l'Élysée, se serait installé un pouvoir fort contre lequel il aurait été pour les travailleurs plus difficile de se battre. Du côté d'une partie de la gauche, ce catastrophisme était destiné à faire passer un message subliminal. L'échéance qui compte, c'est la prochaine élection présidentielle en 2012, dans 5 ans. Eh bien non, les travailleurs, ils ne peuvent pas attendre, ils ne peuvent pas subir les licenciements, les fermetures d'entreprises, y compris par de grands groupes, dont les PNG étalent cyniquement les profits records. Ils ne peuvent pas attendre que leur pouvoir d'achat s'écroule. Ils ne peuvent pas observer résignés qu'on allonge les horaires de travail, qu'on repousse l'âge de la retraite et qu'on diminue les pensions. Malgré la pression du chômage, leurs forces sont intactes. Ce sont eux qui font marcher l'économie. Et les profits extravagants des grandes entreprises viennent exclusivement de l'exploitation des travailleurs. Alors oui, j'ai la conviction qu'il y aura une explosion sociale. Et ce n'est pas la petite personne de Sarkozy, même entourée par son armada de flatteurs serviles, qui pourra l'arrêter. Et en même temps, c'est un espoir, car c'est le seul moyen pour les travailleurs d'arrêter la dégradation de leurs conditions d'existence. Et il n'y a pas d'autre moyen. Pendant les premiers mois de son gouvernement, Sarkozy était le seul à s'agiter sur la scène politique en faisant de l'ombre à ses propres partisans. Il pouvait d'autant plus le faire que le véritable pouvoir n'était pas sur le podium, mais du côté de ceux qui tirent les ficelles. Les escapades en yacht ou en jet privé, les vacances dans des résidences de luxe payées par des amis milliardaires ont à juste titre écœuré les classes populaires. Cela n'a pas seulement montré de quel côté Sarkozy place son admiration et pour le compte de qui il entend gouverner. Cela a symbolisé aussi le lien de subordination entre ceux qui paient et ceux qui exécutent, entre les grands bourgeois et le personnel politique. Et l'expression « personnel politique » est on ne peut plus juste. Pour la bourgeoisie, et surtout pour la grande bourgeoisie, tous ces messieurs-dames qui se bousculent sous les lambris des palais présidentiels et ministériels ne sont que du personnel exécutant. Ils font là où les maîtres de l'économie leur demandent de faire, et si ça va mal, ce sont eux qui servent de fusible. Bon, Sarkozy avait affirmé il y a quelques années, bien avant de parvenir à la présidence, qu'il voulait une droite décomplexée. Eh bien, c'est sans doute la seule promesse qu'il est parvenu à concrétiser en sa propre personne. Toutes les réformes engagées par Sarkozy-Fillon sont des mesures destinées à rendre les riches encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres. Oui, c'est une politique de classe ouvertement affichée. Alors je vous fais grâce de l'énumération de toutes ces mesures, car leurs conséquences sont inscrites dans les conditions d'existence de chacun. Les unes visent à déblayer devant les patrons jusqu'au moindre obstacle qui gênerait l'intensification de l'exploitation. Les autres vise à consacrer aux grandes entreprises, c'est-à-dire à leurs propriétaires et à leurs actionnaires, une part croissante du budget de l'État, quitte à priver des financements nécessaires les hôpitaux, l'éducation nationale, les transports collectifs, c'est-à-dire des services publics utiles à toute la population. On ferme des hôpitaux en ce moment et des maternités de proximité. Les autres hôpitaux sont de plus en plus débordés, faute de crédit et de personnel suffisant. Et ils ne peuvent fonctionner qu'en imposant à leur personnel des heures supplémentaires pratiquement non payées. L'insuffisance des crédits à l'éducation nationale se traduit par des suppressions de postes, alors qu'il faudrait, au contraire, augmenter le nombre d'enseignants pour faire face à la difficulté d'enseigner dans les écoles des quartiers populaires. Faute de moyens, l'école parvient de moins en moins à transmettre non seulement le savoir, mais même un minimum d'apprentissage de la vie sociale. Oh, dans les transports collectifs, on se vante des records de vitesse sur les nouvelles lignes du TGV, mais tous les banlieusards de la région parisienne connaissent la grande misère des trains de banlieue. Et tout est à l'avenant. C'est encore pour pouvoir consacrer plus d'aide et de subventions aux grandes entreprises qu'on supprime des postes ou qu'on limite les heures d'ouverture, par exemple à la poste, ou qu'on regroupe des centres de sécurité sociale en les éloignant du même coup des usagers. C'est pour faciliter l'exploitation que le gouvernement rend les horaires de travail plus flexibles et les licenciements plus faciles. C'est pour cela qu'il s'efforce, en modifiant le code du travail, d'assouplir les contrats de travail pour les rapprocher de plus en plus de contrats précaires. C'est pour cela aussi qu'il s'en prend au droit de grève. Quant au slogan électoral de Sarkozy, « Travailler plus pour gagner plus », c'était déjà cynique comme démagogie électorale. Mais aujourd'hui, alors que les grands groupes pourtant riches annoncent des fermetures d'entreprises, d'ArcelorMittal à Grande-Range, à Michelin, à Toul, en passant par Smoby dans le Jura et Mico Nestlé à Saint-Dizier et bien d'autres, aujourd'hui, lorsque Peugeot Citroën réduit ses effectifs, aux yeux des travailleurs mis à la porte et de leurs familles, le slogan de Sarkozy sonne comme une sinistre provocation. Et Sarkozy a réussi en quelques mois à focaliser sur sa personne la haine des classes populaires. Eh bien, il faut qu'à l'occasion de ces élections municipales, ce ressentiment s'exprime. Il faut que Sarkozy et sa clique soient massivement désavoués. Par les sondages, le crédit de Sarkozy est en chute, même dans son électorat de droite. Alors je laisse aux journalistes les spéculations sur la part dans cette perte de crédit, de son côté nouveau riche et de l'affichage de sa vie privée. Mais après tout, la droite, elle a le chef qu'elle mérite. Et devant le désamour de son électorat, Sarkozy essaie de reprendre la main en utilisant les vieilles ficelles qui lui ont réussi à la présidentielle. Il a mobilisé à Villiers-le-Bel 1 millier de policiers de CRS devant des journalistes dûment convoqués. Il se remet à jouer les matamores contre les immigrés et contre les jeunes de banlieue. Et il fait bruyamment appel à la Cour de cassation pour rendre rétroactive la rétention de sûreté des criminels. Et il pousse son sous-fifre Estrosi, secrétaire d'État des DOM-TOM, à mettre en cause le droit du sol à Mayotte, comme si le fait que des mères comoriennes donnent naissance à leurs bébés sur cette petite île proclamée française menaçait la France d'une catastrophe nationale. Oui, tout ce qui peut flatter l'électorat de droite dans le sens de ses préjugés les plus stupides ou les plus barbares, on y a droit en ce moment. Et le voilà. Et le voilà qui exhibe même sa fonction de chanoine honoraire de la basilique Saint-Jean de Latran à Rome, qui sent bon son Moyen-Âge, pour faire parvenir un message de vœux à quatre diacres catholiques traditionnalistes récemment ordonnés. Que ne faut-il faire pour regagner les sentiments et surtout les votes de tous les intégristes, de tous les cubénis qui avaient aussi contribué à l'élection de Sarkozy, mais dont la bigoterie n'a pu être qu'offensée par les frasques sentimentales du président. Je ne sais pas si ces vieilles ficelles, même trempées dans l'eau bénite, permettront à Sarkozy de rebondir dans l'électorat de droite et d'extrême droite. Et pour tout dire, ce n'est pas vraiment notre problème. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il ne rebondira pas dans l'opinion de l'électorat populaire. Car même si les mesures gouvernementales n'expliquent pas seules la dégradation des conditions d'existence des classes populaires, elles y contribuent quand même beaucoup, et cette dégradation, elle est visible. Qui ne constate la montée de la pauvreté ? Même pour les salariés qui ont un emploi stable. Oui, les camarades l'ont dit avant moi, le pouvoir d'achat s'effondre avec les hausses des prix. Tout augmente, l'essence, le gaz, le fioul domestique. Et la hausse dont les conséquences sont souvent dramatiques est celle des loyers. Parmi ceux qui n'ont d'autre domicile que la rue et dont le nombre est en augmentation rapide, un tiers sont des salariés. Des femmes et des hommes qui, même en travaillant plus, pour utiliser l'expression cynique de Sarkozy, ne gagnent pas assez pour payer un loyer. Et devant le mouvement de protestation organisé l'hiver dernier par l'association des Don Quichotte, le gouvernement avait fait mine de céder et fait voter par sa majorité le droit au logement opposable. Mais ceux qui ont manifesté il y a peu à Paris, à l'appel des différentes associations de sans-logis, dont la Fondation Abbé Pierre, ont souligné à juste titre qu'un article de loi ne constitue pas un toit. Oser se vanter d'un bon vote à l'Assemblée est particulièrement cynique lorsque rien n'a été fait sur le terrain et que le nombre de sans-logis ne fait qu'augmenter, et encore plus le nombre de mal-logés. Car des centaines de milliers de familles populaires qui ont encore un toit au-dessus d'elles vivent dans de véritables taudis, des logements délabrés, des HLM dégradés, parce qu'il n'y a pas les crédits ni pour leur entretien, ni pour leur rénovation. Et puis, comment ne pas être révolté par cette hausse explosive des prix des produits alimentaires de base que constatent toutes celles et tous ceux qui font leurs achats et que vient de chiffrer une enquête de 60 millions de consommateurs, une enquête reprise même par le Figaro. De 17 à 40% d'augmentation pour les yaourts, de 35 à 45% pour les spaghettis, de 10 à 44% pour le jambon, et tout cela en seulement 2 mois. Et pendant que les prix augmentent, comme augmentent les profits des groupes capitalistes de l'agroalimentaire ou de la distribution, les salaires, ils n'augmentent pas. Pas plus que n'augmentent les pensions de retraite ou d'invalidité et les allocations pour les chômeurs ou pour les handicapés. Oui, l'augmentation générale de tous les salaires, des allocations, des pensions de retraite est aujourd'hui une exigence vitale, et devant la relance de l'inflation, Une autre revendication redevient d'actualité, c'est celle de l'échelle mobile de tous les salaires et de toutes les pensions. Mais ce qui se passe à propos des prix pose un problème bien plus général. Les fabricants de produits alimentaires et les grandes chaînes de distribution se rejettent la responsabilité de ces hausses brutales de prix. Et Fillon lui-même évoque la nécessité d'un contrôle. Il en verra peut-être une escouade d'inspecteurs de la répression des fraudes dans quelques supermarchés ou centrales d'achat pour faire du spectacle. Mais tout le monde sait que cela ne servira à rien. D'abord, parce qu'il y a bien plus de grandes surfaces dans ce pays que d'inspecteurs de la répression des fraudes. Et de toute façon, les hyper et supermarchés sont libres de définir leurs prix. On nous dit que les augmentations de prix sont dues aux hausses de prix des matières premières. Mais pourquoi les prix de certaines matières premières alimentaires sont-ils en augmentation? Pour le blé, le maïs ou le soja, il est de notoriété publique que ces hausses de prix sont dues pour l'essentiel à la spéculation, c'est-à-dire à l'achat de stocks de ces produits par des groupes capitalistes importants qui sont capables de peser sur le marché mondial. Comment les contrôler? Comment les empêcher de nuire? Et comment ne pas combattre cette organisation économique où quelques grands groupes capitalistes pour faire du profit supplémentaire affament des populations entières? Depuis quelques jours, le Cameroun est embrasé par des émeutes de la faim. Il n'est pas le premier, ni en Afrique, ni ailleurs. Et il y en aura d'autres, car les hausses de prix, déjà dramatiques pour les familles les plus démunies, même dans un pays développé comme la France, signifient, dans les pays pauvres, condamner à la famine une partie de la population. Et les hausses de prix que l'on subit ici en France ne se limite pas aux produits dont la matière de base est objet de spéculation. L'exemple de la viande de porc, comme celui des fruits ou des légumes, montre que même lorsque les prix payés aux paysans producteurs n'augmentent pas, voire d'ailleurs baissent, eh bien les prix payés par les consommateurs augmentent quand même. Mais qui s'en met plein les poches ? Quitte à pousser des milliers de familles démunies à se nourrir de plus en plus mal. Les grandes entreprises de l'agroalimentaire, les Danone, Nestlé, Unilever, les grandes charcuteries industrielles rivalisent avec les grandes chaînes de distribution pour faire le maximum de profit des deux côtés. Non seulement elles grugent les consommateurs, mais elles payent à leurs ouvriers, à leurs employés, à leurs caissières des salaires lamentables. Alors oui, ces salariés ont bien raison de se battre. Ce qui apparaît particulièrement choquant pour les produits agroalimentaires et vrai pour toute l'économie. Les grandes entreprises décident souverainement de ce qu'elles font, de leurs profits colossaux, sans que la société puisse contrôler d'où vient leur argent et à quoi il sert. Tant qu'il en sera ainsi, tant que les grandes entreprises capitalistes décideront de tout, tant qu'elles peuvent augmenter leurs prix sans s'occuper des conséquences pour les plus démunis, tant qu'elles peuvent décider de fermer une usine ici, d'en délocaliser une autre là, les travailleurs seront inévitablement poussés vers la misère. C'est pourquoi nous affirmons et nous répétons depuis des années que la mesure essentielle est que les travailleurs devront mettre en tête de leurs revendications dans une prochaine lutte une mesure qu'ils devront imposer lorsqu'ils seront en situation de changer leur rapport de force en leur faveur, c'est d'imposer le contrôle par la population de la comptabilité des entreprises et surtout des plus grandes. Cela signifie contrôler au jour le jour l'argent qu'elles reçoivent et qu'elles dépensent, savoir à quoi et comment. Combien ces super et hypermarchés, par exemple, imposent comme dessous de table, comme marge arrière à leurs fournisseurs plus petits et plus faibles, producteurs, paysans et artisans. Quels sont les termes de leurs accords secrets avec des fournisseurs lorsqu'ils sont aussi puissants pour voler ensemble les consommateurs ? Nous disons et nous répétons que tout cela est possible et que c'est à la portée du monde du travail. Car toute opération commerciale, comme toute opération bancaire, passe entre les mains des travailleurs. Dans les hyper et supermarchés, toutes les recettes venant des clients passent entre les mains des caissières. Et ce sont les employés de comptabilité qui les totalisent. Ce sont des travailleurs qui produisent, qui déplacent les produits, qui les manipulent, qui les transforment. Bien sûr, chacun ne voit qu'une petite parcelle des opérations. Mais en se mettant tous ensemble et en mettant ensemble ce que chacun sait, les travailleurs, eh bien, ils sauraient tout. Il y a des associations de consommateurs. Elles font du bon travail. Ce sont elles qui ont attiré l'attention des médias sur l'ampleur des hausses des prix que les ménagères constataient depuis plusieurs semaines. Ce sont elles qui viennent d'attirer l'attention sur le niveau artificiellement élevé des tarifs des appels de la téléphonie mobile. Ces associations de consommateurs devraient bien sûr se voir reconnaître des droits d'investigation et de contrôle élargi. Mais on imagine à quel point leur efficacité pourrait être multipliée si elles pouvaient compter sur les témoignages des travailleurs qui occupent toutes les étapes de la chaîne de production et de la commercialisation. Aujourd'hui, les lois interdisent aux travailleurs de s'informer mutuellement de la marge de leur entreprise et à plus forte raison de centraliser leurs connaissances partielles au nom du secret commercial, du secret industriel, du secret bancaire. On interdit même aux membres des comités d'entreprise de dévoiler le peu d'informations que les patrons veulent bien leur donner. Et très souvent, les travailleurs d'une entreprise sont les derniers à apprendre un projet de réduction d'effectifs ou de fermeture d'usine planifié des mois, parfois des années à l'avance. Mais les lois sur le secret des affaires, elles peuvent être changées et pour commencer, elles peuvent ne pas être respectées. Car ce sont des lois iniques, contraires aux intérêts de la majorité de la société. Les lois sur le secret industriel, bancaire, commercial n'ont aucune autre raison d'être que de protéger aux yeux de la population les capitalismes, leur gangstérisme, leur prédation et leur gaspillage. On nous abreuve depuis quelques jours de discours lénifiants sur les paradis fiscaux où le secret des affaires est poussé jusqu'à l'extrême au point que cela en devient gênant pour les États eux-mêmes. Mais par rapport à la population, toutes les banques, toutes les entreprises sont des paradis fiscaux, où les patrons, les conseils d'administration protégés par le secret des affaires peuvent faire ce qu'ils veulent de leurs capitaux, de leurs usines, qu'ils peuvent fermer, et de le travailleur qu'ils peuvent jeter à la porte. Oui, c'est tout cela qu'il faut rendre transparent devant toute la population. On n'a jamais autant entendu le mot « contrôle » que ces dernières semaines, avec le scandale de la Société Générale et de ses 5 milliards d'euros partis en fumée, le scandale encore de ces milliards qui ont pris le chemin des banques du Liechtenstein, le scandale aussi de ces ententes entre trusts et des lessives et des produits d'entretien pour vendre le plus cher possible leur câbleur. Dans la bouche des responsables de l'économie et de la politique, le mot « contrôle » n'est qu'hypocrisie. Parce qu'ils ne veulent surtout pas que la société puisse contrôler ce que font les grands groupes capitalistes et la façon dont ils accumulent leurs profits. Car cela révélerait que toutes les entreprises pourraient tout à la fois augmenter le salaire de leurs travailleurs et baisser leurs prix. Cela révélerait que les licenciements collectifs ne sont jamais justifiés, qu'il y a toujours la possibilité de sauver les emplois à condition de rogner les dividendes des actionnaires. Cela révélerait plus encore le gâchis que représente leur système économique. Seul l'ensemble des travailleurs, ouvriers comme employés ou techniciens, peut donner au contrôle son sens véritable. On nous dit que les profits sont indispensables à la bonne marche de l'économie. Et les PDG des grandes entreprises continuent à se pavaner devant leurs actionnaires en affichant pour 2007 des profits aussi élevés que les années précédentes, malgré les accros de l'économie, malgré la crise financière et bancaire. Du coup, les actionnaires de plus en plus riches peuvent payer grassement leurs grands commis. Et les patrons des grandes entreprises en France sont devenus les patrons les mieux payés de toute l'Europe. Et puis voilà qu'éclate aujourd'hui un deuxième scandale bien significatif, avec Denis Gauthier-Savagnac. Cet ex-président de la Fédération patronale de la métallurgie a été pris la main dans le sac d'une grosse affaire de corruption il y a quelques mois. Certes, il a été mis d'office à la retraite. Mais on vient d'apprendre qu'il a négocié son départ avec le MEDEF et a touché un pourboire conséquent de plus de 1,5 million d'euros pour tenir sa langue. Somme qui s'ajoute aux 20 000 euros par mois qu'il continue à toucher en tant que délégué général de la Fédération de la métallurgie. Et de plus, comme il est mis en examen, le MEDEF s'est engagé à prendre en charge tous ses frais de justice et ses amendes éventuelles. Alors du côté des patrons et des actionnaires, oui, l'argent coule à flot. Mais les profits élevés des entreprises ne sont utiles ni aux travailleurs, ni à la société, ils sont même nuisibles. Cela fait longtemps que les grandes entreprises, au lieu d'investir dans la production et de créer des emplois, placent leur argent dans des opérations financières, c'est-à-dire, pour parler en clair, dans la spéculation. On impose aux travailleurs des conditions de travail de plus en plus dures, qui les usent, qui les vieillissent avant l'âge, quand elles ne les poussent pas au suicide. On bloque les salaires. On impose au monde la compétitivité de plus en plus de travail de plus en plus mal payé. Tout cela pour que les profits réalisés soient joués à la roulette de la spéculation financière, avec pour conséquence cette crise qui a commencé à l'été 2007 et qui manifestement n'est pas terminée. Nous ne savons pas plus que les dirigeants de l'économie si l'actuelle crise financière se traduira par des banques en faillite, des usines fermées, des queues devant les soupes populaires comme dans les années 1930. Mais cette crise, même si elle reste limitée à ce qu'elle est, représente un gâchis énorme pour la société. Combien de besoins élémentaires, de combien de millions de gens aurait-on pu satisfaire avec les dizaines, les centaines de milliards de dollars partis dans la fumée de la spéculation? Combien de logements dignes de ce nom aurait-on pu construire? Combien d'écoles, d'hôpitaux, de dispensaires? Combien de régions sous-développées de la planète aurait-on pu équiper en infrastructures? Combien de femmes, d'hommes, d'enfants aurait-on pu sauver de la sous-alimentation et de la faim? Eh bien, c'est pourquoi, pour notre part, nous continuons à nous revendiquer des idées communistes. Le système capitaliste, basé sur la propriété privée des moyens de production, sur l'exploitation, sur le marché, sur la concurrence, sur la recherche du profit, n'est pas seulement injuste. Il est aussi irrationnel, incapable de permettre à l'humanité un progrès à la mesure des possibilités scientifiques et techniques. Alors la perspective que nous entendons incarner, c'est celle qui vise à renverser le capitalisme et à le remplacer par un système économique et social plus juste, plus rationnel. Et nous avons la conviction que la classe ouvrière reste la seule classe sociale qui a potentiellement les moyens d'aller jusqu'au bout de la transformation sociale. Exproprier le grand capital et jeter les fondements d'une organisation économique nouvelle. Mais pour que la classe ouvrière puisse, le moment venu, s'emparer de ce programme, il faut qu'existe un parti ouvrier révolutionnaire qui le défende, le fasse connaître aux travailleurs. Non pas un parti fourre-tout, un peu altermondialiste, un peu écologiste, un peu féministe, un peu solidaire des peuples opprimés. Non, ce qu'il faut, c'est un parti communiste révolutionnaire, se revendiquant de cette filiation d'idées qui ont été incarnées dans le passé par Marx, Engels, Rosa Luxembourg, Lénine et Trotsky. La classe ouvrière se redonne un parti, comme l'était chacun à son tour, le Parti socialiste et le Parti communiste à leurs origines respectives. Bien sûr, la classe ouvrière, la classe sociale de ceux qui n'ont que leur salaire pour vivre et qui n'exploitent personne, n'est plus la même qu'il y a un siècle ou plus. Elle s'est élargie, elle s'est diversifiée. Elle n'est plus constituée pour l'essentiel des seuls ouvriers manuels. L'évolution économique a fait apparaître bien d'autres catégories qui font partie du monde du travail et qui font fonctionner l'économie d'aujourd'hui. Aux ouvriers des grandes entreprises de production, à ceux du bâtiment et des travaux publics, aux cheminots, se sont ajoutés les employés de banque, d'assurance, d'administration, les techniciens, les chimistes, les ingénieurs, les informaticiens, les agents d'EDF, GDF, ceux de la DDE par exemple, qui entretiennent les routes et les autoroutes. Et puis il y en a tant d'autres qui vivent de leur seul salaire et qui tous remplissent des rôles utiles à la vie sociale, du personnel hospitalier à celui de l'éducation nationale, en passant par les postiers, et font partie intégrante de la classe ouvrière, ceux aussi que la folie du système capitaliste a écarté de la production, a transformé en chômeurs, comme en font partie, évidemment, tous les anciens travailleurs aujourd'hui à la retraite. Alors notre raison d'être fondamentale est d'œuvrer pour la renaissance d'un parti que la classe ouvrière telle qu'elle est aujourd'hui reconnaisse comme le sien et qui incarne la perspective de la transformation radicale du système économique et social. Eh bien, cette perspective, elle ne peut, elle ne doit pas empêcher de participer aux luttes quotidiennes de notre classe sociale. Bien au contraire, les deux vont de pair. Et les partis ouvriers révolutionnaires du passé étaient eux aussi ceux qui étaient capables de mener ces combats quotidiens le plus efficacement possible. Dans ces combats quotidiens, il y a les combats grévistes, comme celui de la SNECMA. Et il y a aussi les combats politiques, petits et grands. Et les municipales qui viennent sont un combat politique. Dans les circonstances actuelles, il s'agit de faire en sorte que l'électorat populaire montre le plus massivement possible à Sarkozy que ces six magrets ne passent pas et à la droite que les classes populaires en ont assez de son pouvoir. Pour notre part, nous y contribuons dans les villes où nous présentons des candidats. Nous pensons que les gouvernements qui se succèdent à la tête de l'État défendent toujours fondamentalement les intérêts du grand capital, qu'ils soient de gauche ou de droite. Les bénéfices des grands groupes capitalistes sont aussi prospères sous un gouvernement de gauche que sous un gouvernement de droite. Mais ce n'est pas pour autant que nous mettons un signe d'égalité entre la gauche et la droite, et en particulier dans le domaine de la gestion municipale. Et les travailleurs savent bien qu'en règle générale, il vaut mieux vivre dans une ville dirigée par la gauche que dans une ville de droite, même si personne n'ignore que la gestion municipale est enfermée dans des limites étroites. Aucune municipalité ne peut bien sûr résoudre les principaux problèmes des travailleurs, que sont le chômage et les bas salaires. Aucune municipalité ne peut échapper à la dictature des grands groupes industriels et financiers qui, en fermant une usine, peuvent ruiner toute une ville. Aucune municipalité ne peut non plus suppléer aux défaillances de l'État lui-même. Elle ne peut s'opposer à la dégradation des services publics, alors pourtant que c'est au niveau de la commune que se manifestent les conséquences de la fermeture du bureau de poste, ou de la suppression de classes ou de postes d'enseignants. Et puis, vous le savez, la préfecture, c'est-à-dire le gouvernement, a le pouvoir d'annuler les décisions d'un conseil municipal lorsque ces décisions ne lui plaisent pas. Eh bien, à l'intérieur de ces étroites limites, la municipalité peut cependant faire des choix. Par exemple, s'occuper davantage des logements sociaux, favoriser l'équipement des quartiers populaires plutôt que de s'occuper du centre-ville. Et des cantines scolaires aux aides sociales, en passant par les subventions aux associations, il existe nombre de domaines où la municipalité est amenée à faire des choix. Ils peuvent être plus ou moins favorables aux classes laborieuses. Et elle peut surtout se comporter, cette municipalité, de telle façon que les salariés, que les retraités, les chômeurs puissent avoir de bonnes raisons de penser qu'ils trouvent de son côté des gens qui comprennent leurs problèmes et qui essaient au moins de trouver des solutions. Alors si vous envoyez des militants de lutte ouvrière au conseil municipal, je peux vous garantir qu'ils y seront les représentants des intérêts sociaux et politiques, des exploités, des chômeurs, des retraités, des plus démunis. Et ils feront au conseil municipal ce qu'ils ont toujours fait aux militants. Ils appuieront ce qui est favorable aux travailleurs, ils critiqueront ce qui ne l'est pas et ils s'engagent à soutenir et à relayer au sein du conseil municipal les luttes de ceux qui défendent leurs conditions de vie et de travail, travailleurs en grève, français ou immigrés, mal logés qui luttent, usagers qui refusent la dégradation des transports, des écoles, des services publics. Et là où ils feront partie d'une majorité municipale de gauche, ils seront solidaires, sauf évidemment à l'égard de décisions qui iraient à l'encontre des intérêts des travailleurs. Et ils feront d'ailleurs tout pour éviter que de telles décisions soient prises. Et ils garderont bien sûr toute leur liberté d'expression. Vous savez, parmi les conseillers municipaux lutte ouvrière élus au municipal de 2001, plusieurs ont exercé leur mandat dans une municipalité de gauche. Et sans faire partie de la majorité municipale, ils ont voté sans sectarisme, ce qui, dans les propositions de la mairie, améliorait un tant soit peu les choses pour les classes populaires. Et au bilan de 7 années passées dans des conseils municipaux, de tels votes ont constitué la majorité des cas. Car nous ne sommes pas guidés par des formules abstraites, mais par les intérêts de la population laborieuse. Et puis, il n'y a pas que ce qui se passe au sein des conseils municipaux. Cela compte, évidemment. Mais l'activité d'un parti militant, il se fait aussi dans les quartiers, dans la rue, dans les HLM. Pour nous, lutte ouvrière, notre activité politique essentielle se déroule dans les entreprises. Mais nous savons qu'une grande partie de la vie du monde du travail se déroule dans les quartiers populaires et dans les HLM. Et dans le passé, les partis ouvriers étaient bien plus présents dans ces quartiers populaires. Et ils y développaient une activité politique. Et bien des problèmes dans ces quartiers, les incivilités, l'individualisme, le communautarisme, sont fondamentalement dus aux défaillances de l'État, de l'éducation nationale à qui on supprime des moyens pour agir, et plus encore sont dus à tout le système économique et social dans lequel nous vivons. Mais lorsque le mouvement ouvrier est très présent dans les quartiers populaires, dans une certaine mesure, il parvenait à suppléer ces manques. Oh, pas au nom de la morale de la classe possédante, mais au nom des valeurs du mouvement ouvrier lui-même, à commencer par la solidarité, à commencer par l'action collective. Et bien des problèmes locaux peuvent être résolus sans qu'aucune administration s'en mêle par les initiatives de la population elle-même. Et nous chercherons à favoriser les initiatives de la population en utilisant le mandat de conseiller municipal, si les électeurs veulent bien nous le confier, mais là où ce ne sera pas le cas, et où nous n'aurons pas de camarades dans le conseil municipal, cette activité politique, nous la ferons quand même. Dans les quartiers populaires, il y a bien sûr des associations qui essaient d'améliorer les choses concrètement sur le terrain en faveur de la population pauvre, sur le plan éducatif, sur le plan culturel et bien d'autres choses. C'est tant mieux. Nous sommes solidaires de toutes ces associations, comme de tous ceux qui expriment les exigences où les revendications des plus démunis dans tel ou tel domaine spécifique, comme celles qui luttent pour le droit au logement ou qui défendent la dignité et les droits des travailleurs immigrés. Mais à côté de l'activité de toutes ces associations, il est important qu'une politique représentant les intérêts des classes exploitées soit également présente dans les quartiers populaires. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, notre choix fondamental à nous, lutte ouvrière, est de militer sur le terrain politique dans la perspective d'une transformation radicale de la société. Faire connaître, populariser ces idées-là, celles de la lutte de classe, celles de l'émancipation sociale, gagner à ces idées des sympathies et lorsque c'est possible des militants, fait partie depuis toujours de nos activités essentielles dans les entreprises. Eh bien, cela peut se faire aussi dans les quartiers ouvriers. L'histoire du mouvement ouvrier est d'ailleurs à cet égard pleine d'enseignements. Personne ne peut ignorer le rôle qu'a joué l'activité politique locale dans l'implantation des idées marxistes parmi les travailleurs et dans l'émergence du Parti socialiste à l'époque où il était révolutionnaire. Pas plus que personne ne peut non plus ignorer le rôle que, par exemple, les bourses du travail ont joué dans l'émergence du mouvement ouvrier organisé. Alors, il nous faut chercher à convaincre autour de nous, non seulement là où nous travaillons, mais aussi dans nos quartiers. Il nous faut tisser des liens, discuter d'idées politiques et à partir de problèmes locaux peut-être, essayer d'éclairer les nôtres sur des problèmes généraux qui concernent notre classe sociale. Il faut propager le sens de la solidarité dans le monde du travail, entre les différentes catégories des travailleurs et aussi entre chômeurs et travailleurs, que la bourgeoisie cherche si souvent à dresser les uns contre les autres. Nous pensons, avec Marx, que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Bien sûr. Bien sûr que les travailleurs ne peuvent pas s'émanciper dans le cadre d'une seule municipalité, mais ils peuvent découvrir les idées politiques, les perspectives communistes dans leur quartier comme dans leurs entreprises. Ils peuvent aussi faire l'apprentissage, je l'ai dit, de l'action collective. Oh certes, un quartier même populaire, une cité HLM, ne sont pas assimilables à une entreprise. Les travailleurs y sont mélangés avec d'autres catégories et surtout c'est dans les entreprises que les travailleurs sont directement opposés à leurs exploiteurs. C'est là qu'ils peuvent déployer toute leur puissance sociale. Et tous ceux qui ont vécu une grève et qui la vivent aujourd'hui, une grève un tant soit peu importante, durable, ils savent que par-delà les revendications avancées, par-delà la satisfaction obtenue, une grève, c'est une formidable école de solidarité pour tous ceux qui y ont participé. Eh bien, la cité HLM, le quartier populaire peuvent devenir aussi des lieux d'apprentissage de cette action collective. Les partis ouvriers savaient le faire, à une plus grande échelle dans le passé, ne serait-ce qu'en s'opposant collectivement à une expulsion ou encore en venant en aide aux grévistes de l'entreprise voisine. Et puis, là encore, tous ceux qui ont fait une grève restés isolés ont fait l'expérience à quel point l'accueil de la population ouvrière locale est importante, simplement pour tenir le coup. Ce soutien, il ne se manifeste pas seulement dans les collectes, ça compte bien sûr, mais dans bien d'autres manifestations concrètes de solidarité. Alors je le répète encore une fois, même sans conseillers municipaux, On peut mener une propagande communiste et des actions collectives dans un quartier. Et nous avons bien l'intention de faire ce travail, partout où nos forces nous le permettent, même si nous ne sommes pas au conseil municipal. Mais un conseiller municipal, oui, ça peut être un point d'appui, et les conseillers municipaux Lutte ouvrière seront ces points d'appui. Camarades et amis, il nous reste une semaine pour mener campagne. Et notre campagne, je le répète, n'est pas nationale. D'abord parce que nous ne sommes présents que dans un nombre limité de villes. Ensuite parce qu'il y a des situations politiques locales extrêmement variées. En fonction, par exemple, des alliances ou pas avec le MoDem d'une partie de la gauche, sans même parler de la personnalité politique des individus. Mais dans les villes où nous sommes présents, il faut mener notre campagne avec détermination. Là où Lutte ouvrière présente une liste, il faut convaincre les électeurs qu'un vote de plus pour cette liste, c'est une gifle de plus pour Sarkozy. Et là où les candidats de Lutte ouvrière sont présents sur des listes unitaires, il faut convaincre que voter pour cette liste, c'est contribuer à amplifier le désaveu envers Sarkozy. Et dans tous les cas, c'est faire élire des conseillers municipaux Lutte ouvrière. Et partout, il faut tout faire pour tisser des liens supplémentaires avec les nôtres. Des liens qui nous permettront de nous retrouver au-delà des élections municipales, dans les activités politiques que nous menons dans leur ville. Alors oui, votez, faites voter contre la droite et envoyez dans les conseils municipaux des militants de Lutte ouvrière.
Réservé à cet usage dans le hall. Mais avant de nous séparer, je vous propose de chanter ensemble l'international, le chant des travailleurs de tous les pays.
Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison annonce son terre, c'est l'éruption de la fin du passé. Debout, debout,
sa porte.